Y'a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago.
Bonjour à tous, c'est l'émission mensuelle Urgence.
Des coups de pression, des coups dans le dos, des coups de bluff et des hauts, des hauts.
L'émission qui a pour vocation d'informer, de mobiliser, d'alerter, de débattre d'un sujet de société.
Y'a des hauts, des hauts. Si bas, où y a des hauts, des bas et des hauts, de drôles de débats et de la démago.
Comme chaque mois, nous sommes très heureux de vous retrouver. Et une fois de plus, nous allons traiter d'un sujet de société. Je pense que c'est le rôle de la Ligue des droits de l'homme, non pas d'apporter des solutions, mais de faire réfléchir. Réfléchissons ensemble à des sujets de société qui nous semblent fondamentaux.
Urgence, émission animée et proposée par la section de la Ligue des droits de l'homme Villefranche et les Casvilles.
Bonjour, c'est l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, Urgence. Urgence pour les droits, urgence pour les libertés. Cette émission est également diffusée sur Radio Larzac. Ce mois-ci, nous avons choisi de parler du droit à l'éducation. L'école, la formation sont au cœur des enjeux pour notre pays dans les années à venir. Elles sont aussi l'un des enjeux majeurs de l'élection présidentielle. Où en est le droit fondamental de tous à l'éducation aujourd'hui? Ce droit inscrit notamment dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Notre système donne-t-il à chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte les mêmes droits à l'éducation, à la formation? Pourquoi d'autres pays réussissent-ils mieux que nous? Que faut-il faire aujourd'hui? N'y a-t-il pas urgence? Jean-Louis Guy, villefranchois d'origine, mais surtout universitaire à Toulouse, qui travaille sur ces questions dans le cadre de ses travaux d'enseignement et de recherche, va apporter son éclairage et ses pistes de solutions. Merci Jean-Louis d'avoir accepté notre invitation.
Merci de m'avoir invité.
À la fin de l'émission, vous pourrez écouter le traditionnel billet d'humeur de Dominique Ladet. La Ligue des droits de l'homme s'est également donné la parole aux citoyens et nous allons commencer, comme de coutume, par notre micro-trottoir, réalisé cette fois dans le cadre d'un forum des formations organisé la semaine dernière à Figeac par l'université rurale Quercy-Rouergue. Un peu de musique et la parole aux citoyens. Teca, 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 teca
qu'est-ce que l'éducation ?
Pour moi, l'éducation, ça ne se restreint pas à l'école et c'est quelque chose de beaucoup plus large, voilà, de la formation tout au long de la vie.
Pour moi, l'éducation, c'est un apprentissage qui permet de s'améliorer en tout point.
Former des jeunes, former à la culture, à l'ouverture.
Ah, vaste question. Pour moi qui n'ai pas été à l'école, je n'étais qu'à l'école de la vie. Mais je considère que c'est ce qu'on apprend quand on vient dans une famille, quand on vient dans un milieu, et quand on enrichit ça par l'instruction. Et après, l'engagement que l'on porte à la vie. Et l'affrontement que l'on a avec ses semblables pour partager et le vivre ensemble.
C'est compliqué. C'est d'abord transmettre des savoirs, de la culture, un cadre, transmettre.
Qu'est-ce que l'éducation ? Je dirais que c'est donner des armes, des bagages à quelqu'un pour avancer dans la vie et pour se construire et pour pouvoir faire des choix en toute liberté. C'est un peu ce que je dis à mes enfants.
L'éducation, ça revêt plusieurs domaines, mais d'une part l'instruction, et puis d'autre part aussi la possibilité de mener un projet de vie également.
Quels sont les enjeux de l'éducation ?
Les enjeux sont autour de la transmission de nos valeurs. Alors je pense par exemple à ce qui me concerne, ce que j'ai reçu de mes parents, qui ont été très utiles.
Ben oui, c'est apprendre, devenir aussi citoyen, apprendre les règles de la vie, devenir citoyen, oui.
Ben, je pense que c'est en associant en fait à la fois de l'éducation, on va dire formelle, informelle. Voilà, c'est faire grandir l'individu, quoi. Pour moi, l'enjeu principal, c'est ça.
Préparer une personne, développer la structure, développer une personne et lui permettre d'avoir sa place après dans la société.
Ça demanderait quand même de réfléchir à tout ça, hein ? Est-ce que ce sont des questions de fond, ça, que vous me posez ?
Pas d'éducation, le monde s'écroule. C'est un enjeu, ça, non ?
Et les enjeux de l'éducation, à mon avis, pour moi, hein, toujours, ça serait de pouvoir effectivement donner une dimension d'un projet à la personne et d'un projet de vie à la personne.
Les enjeux.
Créer les bases pour que chaque individu, en ne reniant pas ses convictions, ses choix, qu'il puisse trouver quand même le moyen d'exister avec les autres. Et de vivre ensemble et de porter un projet.
Ils sont énormes, ils sont importants.
Donner la possibilité aux gens de pouvoir s'épanouir dans quelque chose qui leur plaît et de pouvoir être critique vis-à-vis de soi-même, des autres, de la société. C'est ce qu'apporte, à mon avis, l'éducation et une certaine liberté.
Faites-vous une différence entre éducation, instruction et formation ?
Éducation, formation et instruction. Éducation, ça se passe plutôt dans la famille. Et l'instruction, c'est familial et à l'école. Et formation, c'est peut-être plus formation adulte, donc peut-être à partir de 16-18 ans. C'est formation, pour moi, c'est après l'école, en fait. Hein. Ouais.
Donc, l'instruction et la formation font partie de l'éducation. L'éducation est, pour moi, plus large. Voilà. Ça appartient à différentes instances et différents organismes et groupes, y compris familial.
Bon, éducation, c'est la formation de la personne. L'instruction, c'est la question des connaissances. Et la formation... C'est préparé à un métier, à une position sociale.
Oui, je fais une différence, oui, effectivement. L'éducation, ça suppose qu'il y a des allers-retours. On parle d'éducation par rapport aux enfants en particulier, et c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de repères, il y a des allers-retours qui doivent se faire entre l'éducateur et celui qui est éduqué. La formation, pour moi, c'est un petit peu différent. La formation, c'est en général, on va essayer de répondre à des objectifs. Dans mon cas présent, on a des gens à former sur des métiers et on va essayer d'adapter la formation qui réponde à ces objectifs de métier. Mais on n'est pas tout à fait sur le même registre que l'éducation, là. Hein.
Ben oui, l'éducation, je pense, à mon niveau, à moi, c'est ce qu'on m'a donné, ma famille, mon milieu, c'est ce dans lequel je suis né, comment on m'a porté, comment on m'a appris les choses de la vie. L'instruction, c'est tout ce qu'on m'a transmis, ou combien quelquefois les enseignants qu'on a eu, surtout dans nos villages. Et la formation, après tu me disais, mais la formation, c'est continuer tout au long de la vie à acquérir des compétences nécessaires à comprendre le monde dans lequel on est. Et pour ne pas être trop imbécile peut-être, mais surtout aussi pour continuer à jouer un rôle dans la société. Voilà.
Les trois sont liés.
Pensez-vous que tous les jeunes aient les mêmes droits à l'éducation ?
Au niveau de ce qui devrait être ou de ce qui se fait ? Alors, légalement, sans doute, réellement, je ne pense pas. Il y a le droit qui est dans les codes et le droit qui n'est pas respecté parfois par rapport au système dans lequel nous vivons.
Non, je ne crois pas, non. Tous les jeunes ont le même droit à l'éducation. En tout cas, toutes les jeunes sont éduquées, soi-disant, entre parenthèses, entre guillemets, ils sont éduqués dans la famille. Mais il y a aujourd'hui, je pense, plus d'éducation dans la famille. C'est la télévision qui a souvent remplacé l'éducation. Après, tout le monde n'a pas les mêmes chances à l'école, en tout cas. Il y en a qui sont écartés dès le départ. Il y a un problème pour les minorités. Je ne sais pas si on parle de la France ou de l'Europe ou du monde. Hein. Il y a encore beaucoup de jeunes qui ne sont pas du tout instruits ou qui ne peuvent pas aller à l'école, alors que c'est un droit fondamental, je pense, oui. Et pour la formation, c'est pareil. Hein. Aujourd'hui, pour avoir le droit de se former, finalement, c'est des gens privilégiés, hein, parce que ça coûte de l'argent. C'est une organisation familiale très importante, compliquée, difficile avec le travail qu'il y a aujourd'hui. Enfin, tout le monde est sous pression. Et si on veut se former en plus, c'est pas évident. C'est pas évident. Justement... Il y a un film, Retour à l'école, qui explique très très bien ce problème. C'est un film de 1960. C'est rigolo, il n'y a que des hommes qui se forment, qui font la formation continue. Il n'y a pas de femmes, pas encore. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a que des femmes. On trouve très peu d'hommes dans la formation continue.
Non, je ne pense pas. Et je pense que c'est de pire en pire.
Je pense qu'ils ont les mêmes droits à l'éducation, mais ils n'ont pas forcément les mêmes... Enfin, ils n'y accèdent pas de la même manière. Voilà. Ouais. Voilà. Les mêmes chances. Ouais.
Oui, c'est ça. Ils n'ont pas les mêmes chances, mais ça se creuse de plus en plus.
Et non, les mêmes droits.
Ils ont le droit, oui. Mais...
Ils ont le droit, mais ils n'ont pas les mêmes possibilités.
Voilà. Ah, les mêmes droits. Ah, les droits. Et oui, oui. Mais oui, moi, je pense que tout le monde vient au monde avec les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais. Malheureusement, on n'a pas forcément tous la même chance, suivant que l'on est né aussi dans tel ou tel milieu, telle ou telle famille, et qu'on a un environnement aussi qui est plus ou moins porteur, quoi. Et c'est pour ça que c'est à la société, à travers le politique, à ce moment-là, de rééquilibrer les choses, pour que ceux qui n'ont peut-être pas reçu, on puisse leur donner plus qu'à ceux qui ont reçu, quoi.
Aujourd'hui ? Certainement pas. Peut-être, dis-moi où tu es né, je te dirai quelle éducation tu vas avoir ou quelle chance tu vas avoir. Et le dis-moi où tu es né, c'est autant le milieu socioculturel que le lieu, peut-être même le lieu géographique.
Non. Chaque enfant n'a pas le même droit à l'éducation, qu'on habite à Paris ou qu'on habite dans les fins fonds du Cantal ou qu'on soit d'une famille... monoparental ou qu'on soit d'une famille avec des parents médecins ou des parents ouvriers, le droit à l'éducation, il est différent.
Et comment ce droit pourrait-il être garanti tout au long de la vie?
Alors, le droit à l'éducation, je pense quand même que... Enfin, moi, je pense que c'est fondamental les jeunes années, qu'après, il y a des choses qui sont posées. Hein. Le droit à la formation, effectivement, c'est très important de se battre pour... Plus les gens ont de la formation, plus ils en demandent. Et moins ils en ont, moins ils ont envie et moins ils cherchent à y arriver. Donc il y a un vrai travail et c'est important de faire un effort vers les bas niveaux, vers les gens qui n'ont jamais, alors quel âge qu'ils aient, hein, qui n'ont pas eu la chance à un moment donné d'accéder à des diplômes par exemple.
Je pense que les choses, elles existent.
Grâce à l'université rurale Kersir-Ouergue. ouais, grâce à des... alors, si, il y a quelque chose quand même qui est important, c'est les associations, je pense, qui, malheureusement, sont quand même de moins en moins soutenues, reconnues, aidées. Mais les associations, notamment d'éducation populaire, jouent encore ce rôle-là. Malheureusement, voilà, elles sont peut-être pas assez médiatisées et peu connues, mais pour moi, c'est, les associations ont leur rôle justement dans, là-dedans, dans l'éducation, la formation tout au long de la vie. Et...
Non, sur le volet formation, je pense qu'aujourd'hui, garantie tout au long de la vie, ça commence à rentrer dans les mœurs et les gens commencent à accepter l'idée de dire que je devrais me former à tout moment de la vie. Sur le volet éducation, et comment le garantir? Là, par contre, j'avoue que je suis un petit peu plus interrogateur.
Il devrait l'être, de toute façon.
Ben, il peut être garanti par les institutions de la République.
Après, je vois pas comment il pourrait...
Avec un effort commun et une volonté. Notamment politique, ouais. Et individuelle, de chaque citoyen.
C'est une volonté de chacun de bien vouloir se donner les moyens et donner les moyens aux gens d'accéder à ces institutions, à cette éducation qui existe, qui est là, mais qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Parce qu'il y a des freins géographiques, culturels, financiers, bien évidemment, qui font que...
Il n'y a que le gouvernement et la façon d'organiser l'État qui peut garantir ça, quoi, le droit à la formation.
Excusez-moi, 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 j'ai dû sortir pour aller gerber. J'ai eu une vision d'avenir et ça m'a plombé. Je me suis vu, comment dire, merdeux et salarié. J'ai vu à quoi ma vie pourrait bien ressembler. J'ai vu le bureau d'un chef, la machine à café, les réunions, les bénéfices et l'air climatisé. Une vie sans relief, directement reliée à la mort. Enfin bref, une vie à gerber. Y avait plus le héros de mes rêves de gamin, Adesiras Benito, le chanteur écrivain. Y avait plus qu'un blaireau, sage au milieu des siens, les collègues de bureau. J'ai gerbé comme un chien, je vais cramer mon CV et garder que mes textes. Je vais signer d'un B avec accent circonflexe, des mots exacerbés pour Léo, pour Alex. Le reste me fait gerber, je veux garder ce réflexe. J'ai franchement pas dans l'idée de me rendre malade à crever, de me retrouver à faire comme le padré, un métier que je peux pas encadrer. J'envisage avec l'âge d'ouvrir la cage au passage, au petit con passage qu'en fait j'ai toujours été et sur lequel j'ai jamais eu le contrôle. Rien qu'à voir le boxon dans ma piole. Léo, je me demande si tu prends pas un risque à m'aimer, à me défendre avant mon premier disque. Toi, tu me vois légende, c'est un peu optimiste. Chérie, si je me viande, j'ai peur que tu sois triste. Il se peut, ma Léo, que j'arrive à que dalle, que je tombe KO sous les premières balles, que tu tombes de haut sur ma pierre tombale. Adesias Benito, mort trop tôt, l'idéal. Ce serait, tu t'en doutes, que mes mots touchent quelqu'un à part toi qui m'écoute et les deux ou trois copains. Ce serait qu'on me goûte et puis qu'on m'aime bien. Rien que ça, j'ajoute qu'on me trouve beau, hein. Je rêve un peu, faut pas, et je fais quoi à la place? Je fais comme eux, c'est ça, une petite vie sans trace. Mais je pourrais plus marcher droit ni te sourire en face. Léo, écoute-moi, je sais ce qu'il faut que je fasse. J'ai franchement pas dans l'idée de me rendre malade à crever, de me retrouver à faire comme le padré, un métier que je peux pas encadrer. J'envisage avec l'âge d'ouvrir la cage au passage, au petit pont de passage qu'en fait j'ai toujours été. Y'a 10 000 kilos de pression sur mes petites épaules,
mais rien qu'un en moins, rien qu'un, et ce serait pas drôle. Gueule d'ange et boucle d'oreille, je me défroque en quelque sorte devant des types qui m'écoutent à moitié. Gueule d'ange et boucle d'oreille, petite chanson, petit concert, petit à petit, j'apprends le métier.
Vous venez de nous rejoindre, c'est Urgence, l'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, sur le thème « Le droit à l'éducation ». Nous retrouvons Serge, membre de la Ligue des droits de l'homme, pour l'entretien avec Jean-Louis Guy. Jean-Louis Guy, universitaire, qui est l'invité de cette émission. À toi, Serge.
Merci. Bonjour. Je commencerai donc par une citation de Victor Hugo. L'éducation, c'est la famille qui la donne. L'instruction, c'est l'État qui la doit. Apparemment, donc, ces deux termes recouvrent deux concepts différents. Et pourtant, en 1932, le ministère de l'instruction publique a été remplacé par le ministère de l'Éducation nationale. Par conséquent, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui distingue les contenus de ces deux termes, instruction et éducation.
Alors, effectivement, dans le micro-trottoir, on a entendu les termes clés, la éducation, formation, instruction. Alors, probablement que le plus large, c'est la formation. Étymologiquement, c'est donner l'être et la forme. C'est très vaste. Et on peut considérer, me semble-t-il, que l'éducation et l'instruction sont les moyens, sont des moyens de la formation. Et donc, on est déjà sur des éléments un peu plus précis. Alors, Serge a cité Victor Hugo. Alors, j'avais amener un extrait des Contemplations que j'utiliserai peut-être tout à l'heure, où on mesure la portée, en tout cas, de l'éducation. Je reprendrai simplement, peut-être pour identifier l'instruction, une phrase très courte de Montaigne. Instruire, c'est former le jugement. Éduquer, là aussi, étymologiquement, c'est guider hors de la sphère privée, c'est développer des facultés, des apprentissages. Ça renvoie quand même, me semble-t-il, à toute la philosophie du siècle des Lumières. L'homme éclairé sera un homme libre. Bon. Et le droit à l'éducation, finalement, est un droit très récent. Alors que l'éducation est, bien sûr, a traversé l'histoire. Mais le droit à l'éducation ne l'a pas encore complètement traversé, et il n'a pas non plus traversé l'espace. Pendant très longtemps, une partie de ces moyens d'éducation et surtout d'instruction, c'est-à-dire de transmission de la connaissance, a été réservée à des groupes, à des parties de la société qui avaient, par exemple, sous l'Ancien Régime, des privilèges. Et ce n'est que finalement très récemment que le caractère universel de l'éducation a été reconnu. Notamment par l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, qui est quand même, me semble-t-il, un article que l'on ne cite pas assez souvent, peut-être parce qu'il est déjà un peu éloigné, article 26, on a l'impression quand même qu'on ne l'a pas mis tout de suite dans les premiers articles, alors qu'il est, me semble-t-il, encore aujourd'hui, une condition de beaucoup d'autres droits. Et notamment de la liberté de choix, puisque si on s'interroge sur la portée aussi de ce droit, la liberté de choix, par exemple, d'une profession qui augmente avec le niveau de formation. la liberté d'accès au bien-être matériel. Puisque là aussi, je ne sais pas si c'est l'économiste ou le statisticien qui parle, mais il y a une corrélation non ambiguë entre les niveaux de revenus et les niveaux de formation, et pas simplement en France. Si on prend, j'allais dire, les dernières éditions des meilleurs livres de macroéconomie américains, on voit que ce phénomène a un caractère universel. Si on considère aussi en Europe et dans l'ensemble du monde développé, puisque je vois là, il se trouve que ces temps-ci, je me promène pas mal en Asie, mais c'est vrai aussi en Amérique latine, il y a une corrélation très forte entre l'accès à certaines activités, à certains sous-marchés du travail, et le niveau de formation. Si vous considérez la France, par exemple, sur les 30 ou 40 dernières années, le taux de chômage est d'autant plus élevé que le niveau de formation est faible. Et il n'y a aucune exception à cette règle. Les courbes ne se coupent jamais, c'est ce que je dis, et que je montre souvent aux étudiants. Le niveau, le taux de chômage des non-diplômés, par exemple, varie entre 15 et 50% sur ces 40 dernières années. Malgré tout ce qu'on peut dire sur les taux de chômage des diplômés de l'enseignement supérieur, qui ne sont pas nuls, ils sont 10 à 15 fois inférieurs à ce qu'on observe pour les non-diplômés. Et je passe sur les taux de chômage intermédiaires des titulaires du baccalauréat ou des titulaires de certaines formations intermédiaires de CAP, BEP, etc. Donc, l'enjeu est considérable. C'est-à-dire que on va avoir accès à des libertés qui sont associées à l'exercice ou non de ce droit à l'éducation et au-delà à la formation. Alors, j'insiste sur un plus, j'allais dire ce droit est endogène. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plus vous avez de formation initiale, et ça a été évoqué dans le micro-trottoir implicitement, plus, notamment en France, vous avez droit à la formation continue. C'est absolument. Alors il y a une circulaire européenne sur ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, sur laquelle j'ai l'impression parfois que la France s'assoit. J'écoutais encore une émission tout à l'heure à la radio en venant. On a une culture de la formation initiale. On se préoccupe des discriminations dans la formation initiale, mais souvent on oublie les discriminations et l'exercice du droit à la formation tout au long de la vie. Je préfère ça que la formation continue, parce que bon, la formation continue, elle existe aussi pour tout le monde. En effet, et là, je crois qu'on ferait bien de balayer devant notre porte, parce que beaucoup de pays considérés comme les plus avancés, ont finalement, dans l'exercice de ce droit, beaucoup plus de références que nous. Vous savez, ça renvoie à la fameuse phrase de Sartre, on ne rentre qu'une fois en normal sup, mais on en sort toute la vie. Donc il y a une rente en France, notamment, de cette formation initiale. Et donc, vous voyez que l'accès à l'instruction va conditionner des types d'éducation et surtout l'exercice de beaucoup de libertés. C'est pour ça que ça me paraît quand même un enjeu considérable. Puisque quand même, les premiers articles de la Déclaration des droits de l'homme concernent quand même l'accès aux libertés. Donc voilà pourquoi ça me paraît une condition de beaucoup de choses. Et j'allais presque faire aussi une remarque encore un peu économique sur ce qu'on appelle les modèles de croissance endogène aujourd'hui. On parle beaucoup de croissance, c'est-à-dire d'évolution à long terme du niveau de vie des gens, finalement, du produit intérieur brut par tête. Et dans les modèles de croissance endogène, on a un facteur très important qui est le capital humain. Et ce capital humain, il est quand même mesuré avec des indicateurs de formation, d'éducation, même si on peut les critiquer, ils servent quand même de référence. Et donc, j'observe, lorsque je vais notamment au Vietnam, là j'arrive de Chine, et que... il y a ce droit à l'éducation, il existe dans des pays qui ont connu des, je dirais, des références idéologiques différentes, mais que dans l'exercice de ce droit, quand même, il y a encore beaucoup de privilèges. Ils existaient aussi dans les pays, j'allais dire, communistes, dans les pays en Union soviétique. Et alors parfois, vous voyez, pour mettre un peu d'humour, je pense à la phrase de Coluche, il y en a quand même qui sont plus égaux que d'autres, même lorsque on évoque l'égalité. Donc, voilà, je pense quand même que dans ces droits, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de discrimination. Je ne parle pas, alors, bien sûr, aujourd'hui, de drame. Vous voyez, c'est pour ça que je parle souvent aux étudiants du deuxième objectif du millénaire, c'est-à-dire scolariser tous les enfants. C'est pas 80, 90%, c'est tous les enfants. On en est loin, et là où la discrimination est la plus forte, c'est la discrimination en milieu rural, la discrimination des filles et la discrimination des pauvres. Donc si vous combinez la localisation en milieu rural, le sexe, et j'allais dire la formation, l'éducation déjà accumulée, vous avez trois éléments qui vous explique, malheureusement, je vais être un peu dur là, pourquoi, lorsqu'il y a des famines, ce sont aussi les populations qui sont le plus touchées, car les autres ont compris qu'il fallait soit partir avant, soit se protéger autrement, etc. Donc vous voyez que ça a des conséquences dramatiques, d'accord ? Même s'il ne faut pas, bien sûr, exagérer cet élément. Donc vous voyez, je pense qu'il y a l'affirmation du droit, et je crois qu'il faut se réjouir du caractère universel auquel la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement participe, et après il y a l'action, j'allais dire. Et c'est-à-dire, à un moment donné, il faut que sur le terrain, on agisse pour savoir dans quelles conditions ce droit pourra être mis en œuvre. Et je crains que l'objectif du millénaire à l'horizon 2015 ne soit pas atteint, ce deuxième objectif, et qu'on le reporte une fois de plus, malheureusement, parce que si on regarde certains pays d'Afrique, encore plus de 50% des enfants ne sont pas scolarisés, et lorsqu'ils le sont, vous savez que statistiquement, vous pouvez n'être scolarisé qu'un an, deux ans, partiellement. Et donc, vous voyez que ça fait quand même très peu, quantitativement.
Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
Oui, vous avez tout à l'heure cité Montaigne, instruire, c'est former le jugement. Et cela nous ramène, je pense, à M. Mérieux, le directeur de l'UFM de Lyon, qui, depuis quelques années, insiste sur le fait que l'on doit mettre l'enfant au centre du système scolaire. Et il est vrai que l'enfant au centre du système scolaire, cela signifie qu'on doit l'épanouir, l'amener à développer son esprit critique, qui est la condition d'ailleurs du libre-arbitre, puisqu'on ne peut pas être vraiment libre si on n'a pas d'esprit critique, si on ne résiste pas aux manipulations, aux conditionnements. Et j'ajouterai aussi que ça va au-delà, puisque une telle formation permet justement de déboucher sur l'humanisme, la reconnaissance de la dignité de l'autre, qui est à la base de l'égalité républicaine, et la reconnaissance aussi de la solidarité comme une nécessité sociale, qui est à la base aussi de la fraternité républicaine. Mais dans cette conception qu'a Mérieux, disons, de la pédagogie ou de l'enseignement du rôle de l'éducation nationale, il fait passer apparemment l'instruction au second plan. Que peut-on en penser? Quelle est votre position quant aux théories de Mérieux?
Alors, en tout cas, l'éducation est un élément essentiel des droits de l'enfant. C'est l'article 28 de la Convention des droits de l'enfant. Là aussi, vous voyez quand même que ça arrive, article 28. Bon, après, on était article 26, bon, mais je ne pense pas. Donc, je m'interroge là-dessus. Alors, ensuite, on est passé, vous l'avez dit dans votre introduction, d'un ministère de l'instruction à un ministère de l'éducation. Donc, on pourrait penser qu'il y a une certaine cohérence, finalement, dans cet élargissement. Alors, moi, j'y vois quand même aussi un autre élément, c'est que les acteurs de l'éducation sont à la fois plus nombreux et peut-être plus solidaires, plus impliqués. Par exemple, l'institution scolaire implique de plus en plus des enseignants, des parents et d'autres institutions. Donc on pourrait voir dans cette évolution des éléments favorables. Ensuite, bien sûr, je crois qu'il faut être très, très modeste sur les méthodes qui peuvent être utilisées. Moi, je crois à la pluralité des méthodes. Et je suis quand même d'une très grande tolérance sur les conditions dans lesquelles on peut instruire, on peut transmettre des connaissances, des savoirs, parce que c'est ce qui caractérise quand même l'éducation, c'est le passage, j'allais dire, de la croyance au savoir. Et donc, tant qu'on ne sait pas, on croit, mais quand on sait, on peut utiliser ces savoirs. Et donc, je pense que je cite souvent ce qu'on lisait dans les cahiers de doléances à la veille de la Révolution. Finalement, les enfants de la bourgeoisie qui n'avaient pas les précepteurs ont été formés dans les écoles des jésuites. Bon, je ne pense pas que les jésuites leur aient dit « quand vous sortirez d'ici, vous irez faire la Révolution ». Donc, je pense qu'à partir du moment où vous formez quelqu'un, j'allais presque dire par n'importe quoi, vous le formez et vous le tenez plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous l'avez formé à la liberté, et après, je crois que, je vous citerai Cicéron, le plus souvent, qui veut instruire est gêné par celui qui enseigne. Je crois que il faut une grande diversité dans les modalités de formation, et il faut donner à chacun, à chaque enfant, ce qui va lui permettre d'accéder à cette capacité, à cette capacité, peut-être, dirait Amartya Sen, pour avoir ses propres moyens de liberté. Je pense que ça, c'est difficile. Ça va demander beaucoup de moyens, ça va demander une grande diversité, mais je pense qu'au cours des 20, 30 dernières années, l'instruction, la transmission des connaissances s'est fait de plus en plus quand même en tenant compte de cette première éducation qui était l'éducation de la famille quand même, au sens large. Il me semble qu'il faut continuer dans ce sens. Ça demande des moyens, ça demande du financement des moyens. Mais il faut que la société sache que le prix de cette liberté future et des capacités humaines dont elle disposera aussi dépendent de ce qu'elle accepte aujourd'hui de financer. Et je pense que beaucoup de nos problèmes, les problèmes qu'on observe, évolueront aussi en fonction de ça.
Oui, l'éducation ne peut pas être ponctuelle dans le temps. C'est ce que vous avez dit. Il est nécessaire de prolonger cette éducation tout au long de la vie de la personne. Et je crois que c'est lors de la seconde moitié du 19e siècle que ont été proposées des formations. C'est-à-dire, en gros, on a considéré, dans le prolongement d'ailleurs de ce qui avait été prévu déjà en 1789 dans le, autour de Condorcet, donc ont été proposées une formation, des formations continues et en particulier ce qu'on appelle la formation permanente ou l'éducation permanente. Où se situe actuellement cette éducation permanente? On sait qu'il existe diverses associations qui s'en chargent, mais je ne pense pas que cela s'arrête seulement, cela se limite au rôle des associations. Et que pensez-vous donc de cette éducation permanente? Sous quelle forme peut-elle se développer à notre époque?
Alors, je suis très intéressé par cette question parce que j'avais participé à plusieurs commissions lorsque Lionel Jospin était ministre de l'Éducation nationale et j'avais aussi là-dessus une position parfois beaucoup plus sévère que certaines de mes collègues ou membres de toutes ces commissions. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on a appelé l'échec formation. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller directement à l'essentiel. Je pense que tout le monde comprendra ce que je veux dire. Vous avez aujourd'hui des gosses qui sortent, qui sont sortis à 14 ans ou qui sortent à 16 ans du système scolaire. L'idée était très simple. On finance jusqu'à 24 ans, par exemple, la formation de certains étudiants. Donc, vous devez 8 années de service public, de bien public, de formation à ces jeunes. Qui non seulement sont sortis à 16 ans, mais auront des salaires beaucoup plus bas que ceux qui sont sortis à 24. Alors, l'idée, c'est de dire, voilà, ce transfert de ressources qu'on a fait sur la société pour les autres, vous y avez droit aussi. Et donc, je vous donne ce chèque, en fait, et vous pouvez l'utiliser pour toutes les formations. C'est-à-dire pas simplement pour la formation professionnelle continue, qui est intéressante, mais qui n'est qu'une partie de la formation permanente, continue, ou tout au long de la vie, pour utiliser l'expression très contemporaine. Et donc, je vais vous permettre d'aller dans les institutions de formation, quelles qu'elles soient, je le répète, générales ou appliquées aux professionnels, et vous allez pouvoir faire valider ces acquis. Vous voyez, j'utilise des termes qui sont utilisés. Nous avons dans les universités des commissions de validation des acquis. Et on va sortir, vous voyez, un peu d'un système qui est... il y a des diplômes, il y a une formation initiale. Et comme dirait Gardner, il y a des intelligences. Et ces intelligences, il ne suffit pas de dire dans le discours, il faut un moment les reconnaître. Et permettre, justement, je suis très content d'avoir répondu à cette question, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, et c'est, je crois, une des conditions du droit universel à la formation. Il faut que des individus qui sont sortis très tôt du système scolaire, pour des raisons que vous connaissez mieux que moi, et puissent revenir et montrer que finalement... ils avaient aussi accès à autre chose, qu'ils pouvaient assimiler d'autres savoirs, qu'ils se trouvent dans d'autres dispositions que celles dans lesquelles ils se trouvaient à cette période. Et donc, je crois que lorsqu'on en arrivera là, on aura effectivement un exercice du droit qui sera conforme à cet esprit de la formation tout au long de la vie.
Eh bien, oui. Je pense que...
Mais je suis prêt à répondre encore plus longtemps à cette question.
Oui, bon,
je vous ferai même, si vous voulez, un jour une émission spéciale là-dessus.
Jean-Louis, vous avez dit, et dans les micro-trottoirs, cela a été dit également, que certains étaient plus égaux que d'autres face à l'éducation
Coluche
et à la formation.
Moi, hein.
Justement, pour citer Coluche. Mais alors, quelles seraient aujourd'hui les mesures urgentes à prendre pour essayer de rétablir une certaine égalité, parce qu'on sent aujourd'hui quand même qu'il y a une certaine dérive, que l'ascenseur social
fonctionne beaucoup moins qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans. Quelles seraient les mesures les plus urgentes à prendre, si vous aviez à en choisir une, deux ou trois, dans les mois qui viennent?
Alors je veux bien répondre à cette question, mais ce que je veux dire, c'est que je vais répondre. Hein. C'est d'abord, je pense qu'il faut une gouvernance mondiale pour l'application du droit universel à la formation. C'est-à-dire qu'il faut que la société mondiale, il y a l'OMC pour le commerce, qu'il y ait une organisation mondiale pour l'éducation, ça ne me paraît pas scandaleux. Et donc, il y ait une solidarité. Il ne suffit pas de dire tous les enfants ont droit doivent être scolarisés. Moi, je dis souvent, il faut le financer. Bon. Et donc, financer ce droit permettra effectivement d'atteindre l'objectif. Donc ça, c'est une première condition. Et veiller effectivement à ce que les discriminations à l'échelle mondiale, et notamment, je dirais, dans les zones les plus pauvres, notamment la discrimination par sexe, soit considérablement atténuée et même, si possible, disparaisse. Bon, ensuite, alors, si on regarde plus près de nous ce que vous appelez l'ascenseur social. Alors ça, si vous voulez, je pense quand même que là aussi, la société française est restée, je dis souvent, Bourdieu a une rente de situation en France. Parce que quand même, il a écrit Les héritiers... et les héritiers, ils y sont toujours. Quoi. C'est-à-dire que... enfin, Bourdieu et Passeron. Mais on a un discours. Mais dans la pratique, je suis assez sévère sur les conditions dans lesquelles l'ascenseur social ne fonctionne pas. On a une discrimination... De fait, dans nos institutions scolaires, qui mérite réflexion. C'est-à-dire que je crois qu'il faudrait discuter la formation par et la formation pour. La formation par, c'est que je me forme par les maths, par la littérature, par des disciplines techniques. Je dois pouvoir arriver à terme à avoir le même éventail de choix. Le même type de choix. Là, il y aura une égalité. Mais on a hiérarchisé nos disciplines, nos formations, nos institutions scolaires, nos établissements, etc., etc. Et lorsque on essaie d'atténuer cette hiérarchie, il y a l'intelligence de ceux qui calculent comment on peut la détourner. Je veux dire. Bon. Et donc, il y a un problème là-dessus qui fait que, pour le moment, j'observe que une partie du fonctionnement institutionnel ne permet pas cet ascenseur. Mais des faits observés ne sont pas des faits nécessaires. Donc, raison de plus pour se mettre enfin à modifier ces conditions. Alors, je pourrais être plus précis, bien sûr, là-dessus, vous voyez ce que je veux dire, mais bon, je ne veux pas être polémique non plus. Hein. Mais je suis assez sévère, quand même, là-dessus. Je suis assez sévère.
Eh bien, donc, il apparaît que le problème de l'éducation est d'une extrême complexité. Il présente une multitude de facettes. Et je pense qu'il faudra peut-être un jour se mettre au travail de façon à analyser ces multiples facettes et faire progresser de façon efficace l'éducation. Je vous remercie.
Merci à vous, hein, de m'avoir invité.
Merci, Jean-Louis, d'avoir accepté notre invitation. Et Serge, merci. Et maintenant, place à Dominique Ladé pour son billet d'humeur après une pause musicale.
Musique. Bonjour. Le premier tour des élections présidentielles est passé. Les résultats ont été largement commentés par les uns et les autres. Ces résultats m'amènent à deux premières réactions. Ma première réaction est par rapport à la participation. On disait les Français blasés et même inintéressés par cette élection que certains disaient jouée d'avance. La réponse est venue directement des électeurs. Une forte participation et donc des citoyens qui ont fait mentir les faiseurs de prévisions. 14,7% en Aveyron, c'est honorable. 32 095 Aveyronnais n'ont pas voté. Il faut enlever les impossibilités passagères ou non, maladie invalidante, hospitalisation en urgence ou pas, déplacement non prévu, le résultat me semble honorable. Ceci étant dit, il y a encore beaucoup de Français qui ne se sont pas déplacés pour remplir leur devoir de citoyen. 20,52%, soit 9 444 143. C'est beaucoup trop encore. Ces chiffres sont les chiffres officiels collectés sur le site du ministère de l'Intérieur. D'autres candidats annonçaient la surprise des résultats. « Vous serez surpris par mes résultats. Voilà. » Ne mélangeons pas tout. Et effectivement, on a pu être surpris par certains résultats. Effectivement. Pour ma part, les résultats obtenus par Marine Le Pen m'ont beaucoup surpris et attristé profondément. Ils ne m'ont pas mis en colère contre les citoyens qui ont apporté leur voix à la représentante du Front National. Non, pas que, pour être plus honnête. Surtout, je me suis dit qu'il y avait encore beaucoup de chemin à faire pour expliquer, convaincre. Selon les mêmes chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, 17,9% au niveau national, c'est-à-dire quand même 6 421 426 personnes. Et 14,10% au niveau du département de l'Aveyron, c'est-à-dire 25 619 personnes. Ma colère va plus vers les hommes politiques, en général, et certains en particulier, qui ne mesurent pas le poids de leurs discours, de leurs attitudes. Expliquer le chômage par un trop-plein d'immigration est non seulement une contre-vérité, c'est mentir aux Français, mais en plus, c'est monter une partie des habitants contre une autre partie. Le banaliser, c'est le rendre habituel, et donc quelque part en faire une règle d'or, une vérité. J'ai entendu souvent dans cette campagne, tout le monde sait que, il est vrai que, sans rien mener comme raisonnement pour étayer cette réflexion. C'est vrai pour l'immigration, mais aussi l'insécurité, le chômage, l'Europe. Les Français sont pris pour quoi ? Des idiots ? Des ânes ? Ou des veaux, comme disait un certain général ? Pire que cela, je pense que c'est une manière de faire qui laisse les auditeurs de tels discours dans une position qui, s'ils souhaitent ne pas trop réfléchir, et chacun à notre tour, à certains moments, nous sommes tentés de prendre cette position, une position donc qui les amène à être très vite à avaler des contre-vérités. Le fait que cela soit répétitif ne fait que faciliter la chose et donc empirer le mal. C'est purement et simplement de l'arnaque, de l'escroquerie, de la profonde malhonnêteté. Tout cela pour un brin de pouvoir. En colère aussi contre les hommes politiques qui ne font plus rentrer leurs projets dans l'histoire de notre pays et de notre monde. Les gens ont besoin de voir de qui s'inspirent les candidats, comment ils voient l'avenir. Pas pour les faire rêver, quoique cela ne soit pas un mal si c'est exprimé. J'ai fait un rêve, disait Martin Luther King. Mais bien pour leur permettre d'imaginer le résultat attendu de leurs propositions, la cohérence de ces propositions, encore faut-il qu'il y en ait une. Voilà pourquoi je crois à la force de la parole, de l'échange, du débat, de la relation directe, à ceux qui ne vendent pas une vérité, mais un chemin pour la rechercher. Je crois en l'intelligence des humains, pour peu qu'on leur donne les moyens de l'exercer. Et que veut faire ce candidat qui, pour diviser encore plus les Français, les monter les uns contre les autres, en parallèle de deux autres manifestations, veut lancer sa fête du vrai travail ? Cherche-t-il, comme certains le disent, à provoquer un clash violent ? Cherche-t-il l'affrontement physique pour pouvoir déclencher des mouvements de peur et ensuite tenter de récolter les voix de ceux qui verront en lui le recours ? C'est jouer ? Non, ce n'est pas un jeu. C'est être pyromane. Mettre l'intérêt collectif de la nation loin derrière son petit intérêt partisan, c'est bas. C'est vouloir gagner à tout prix, au risque de déclencher un incendie violent. Pour ma part, je ne suis pas délégué syndical. Je suis syndiqué. Je suis un travailleur. Je suis un citoyen. Et j'ai très souvent défilé le 1er mai sous ma bannière syndicale, ou le plus souvent derrière celle de la Ligue des droits de l'homme, ou, et c'est tout aussi honorable, derrière aucune bannière, mais avec l'ensemble de mes concitoyens qui le souhaitaient. C'est un jour de fête, de la fête du travail. Et ce mardi 1er mai, je serai dans la rue pour cette fête du travail, des travailleurs et des citoyens. Et puis, vient le temps de l'autre colère, plus sourde, plus ancrée, plus profonde, reliée à notre histoire, reliée à l'histoire de ma famille, reliée à mon histoire. Colère dont nous sommes tous responsables, chacun à notre place. Nous avons un devoir de mémoire. Cela veut dire évidemment se souvenir pour transmettre. Oui, c'est vrai. Mais cela veut dire aussi se souvenir pour analyser, pour comprendre, et donc pour agir. Dans le respect de la démocratie, dans le respect de l'avenir que nous préparons pour nos enfants et petits-enfants. Il faut se rappeler et dire partout, et sur tous les tons, que l'extrême droite, le Front National, ce n'est pas la diaboliser que de dire qu'il est l'héritier de ceux qui ont donné Adolf Hitler. C'est tout simplement énoncer une vérité. Celui-ci aussi a été porté au pouvoir par le vote démocratique des urnes, au départ au moins. Les pensées de l'extrême droite, en France comme en Europe, en ce moment sont assez clairement exprimées pour que l'on puisse avoir la crainte de revoir venir les heures sombres qui ont entaché à jamais la vieille Europe et de nombreuses autres contrées. Je ne peux pas croire que les Français aient à ce point perdu la mémoire. Chacun dans sa famille a eu ses martyrs et ses collaborateurs souvent aussi. Regardons posément les dérives actuelles autour de tous les extrémismes et ne nous laissons pas bercer par les sirènes, ne serait-ce que d'un seul de ces extrémismes. Pour les vœux de début d'année, le président de la LDH, section de Villefranche de Casseville, a choisi une phrase de Victor Hugo. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action. Pour moi, elle est affichée dans mon bureau. Voilà, chacun en conscience sera ce qu'il a à faire. La première action utile et nécessaire est le vote. Je le crois toujours en cette période. Mais il faudra aussi que des hommes s'engagent plus complètement vers la voie du dialogue, de l'explication, pour empêcher que la bête immonde ne revienne hanter nos jours et nos nuits et celles de nos descendants. Alors, encore une fois, aux urnes, citoyens, et, sauf pour le 1er mai, ne vous défilez pas. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut l'action.
Merci Dominique. Nous avons pu apprécier une nouvelle fois la pertinence de ton regard sur l'actualité. On se retrouve le mois prochain. C'était Urgence. Urgence pour les droits, pour les libertés. L'émission mensuelle de la Ligue des droits de l'homme, émission diffusée chaque dernier samedi du mois sur CFM Villefranche. Une émission que vous pourrez réécouter sur le site cfmradio.fr. Excellente journée à tous et rendez-vous le mois prochain. Avec la Ligue des droits de l'homme, défendons au quotidien les droits, les libertés, la solidarité. Refusons l'exclusion.
Il y a des hauts, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Il y a des hauts, des hauts.
Il y a des hauts, des hauts.
Et la France d'en bas. Et la France d'en haut. Celle dit des bourgeois. À papa et les cadres sociaux, il y a la France moyenne, de Brest à Cayenne, il y a les sans-papiers, les sans sous les sans, sur les sans pitié, il y a les femmes seules et les prisonniers, il y a les infirmières et les gars du chantier, il y a les ouf, les ouaves, les toqués, toqués, malvoyants, clairvoyants et les nains du clergé. Et voici que me voilà, oui, me voici, c'est moi que v'là, je peux chanter, parler de tout ça. Quand tout ça se passe ici, oui, y a des hauts, des bas, des bas et des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Y a des hauts, des hauts. De drôles de débats et de la démago. Des coups de pression, des coups dans le dos. Des coups de bluff et des hauts, des hauts. Hello, comment ça va? On s'est pas vu depuis longtemps, toi et moi. Le temps passe vite et...